Shalom uvracha, shalom uvracha, Be'ezrat Hashem na'ase v'natzliach. Aujourd'hui, bien entendu, nous parlerons de Purim avec la notion qui correspond à sa profondeur avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'une manière générale, le monde est partagé en deux degrés. Les lumières et les contenants, ce qu'on appelle Orot Vekelim. Orot Vekelim, vous connaissez un petit peu, c'est le nom de notre Amuta, et c'est donc pas par hasard qu'on a donné ce nom. C'est justement parce que nous devons associer les lumières avec les contenants qui correspondent à ces lumières pour les contenir, pour les diffuser dans ce monde. Alors, je vais commencer tout de suite par un texte du Rashash, Rabbi Shalom Sharabi Alav Shalom, un des plus grands kabbalistes, qui dit que Yemei Purim Ugdulatam Harama, il utilise les quatre lettres du nom de Dieu, vous voyez ici en haut, que les jours de Purim, avec leur profondeur, leur élévation, Noda Umefursam Godel Haratanes Shenigala Al Am Israel Bayamim Ahem Ubazman Azeh. Nous savons que la grandeur du miracle qui est apparue au peuple d'Israël dans le passé et dans le présent. Veut dire le Rav, Midei Shana Beshana, chaque année, à la même période, au même jour, Hayamim Niskarim Venaasim. Il est écrit dans la Megillah elle-même que les jours de Purim sont rappelés et sont remis en action. Ou Midgalet et Arata Makdosha, sous-entendu, selon la Kabbalah, selon le Rashash, la puissance des jours de Purim, comme d'une manière générale toutes les fêtes du calendrier hébraïque, ne sont pas la commémoration d'une histoire, mais la puissance des jours revient à chaque génération. Autrement dit, la semaine prochaine, quand on va fêter Purim, on aura la même puissance, le même éclairage en potentiel que le jour où ça s'est passé du temps de Mordechai et Esther. C'est pas une commémoration, c'est pas qu'on se rappelle quelque chose du passé, c'est qu'on rappelle le passé et on le place dans le présent. Moralité, la puissance des jours existe avant même la fête qu'on va en faire. Ça veut dire que la puissance de Purim existait dans le monde depuis la création du monde et Mordechai et Esther ont su capter l'énergie qui circule dans l'univers ce jour-là. Et c'est comme ça qu'ils ont fait en sorte d'inverser le processus d'un pogrom à une petite Géoula. Je dis petite Géoula parce que nous sommes encore à l'extérieur de notre terre et donc il y a quand même quelque chose de très 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 fragile à Purim, notamment dans les vêtements. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien tout simplement le jour de Purim, et malheureusement ce pogrom a presque eu lieu parce que nous avions perdu nos vêtements. Perdre ses vêtements, cela indique que nous perdons notre manière de révéler la chose en question. Un vêtement, ça sert à dévoiler. Quelqu'un qui n'a pas de vêtements ne peut pas dévoiler quoi que ce soit. Là, par exemple, j'ai une pensée, je l'habille dans ma parole. Ma parole devient un vêtement de ma pensée. Et c'est parce que je vous donne ce vêtement que vous pouvez entendre ma pensée. La même chose au niveau de nos vêtements, c'est parce que nous nous habillons que nous pouvons sortir, nous révéler. La Neshama, elle aussi, a un corps qui va la révéler, sans lequel elle est invisible. Eh bien, de la même manière, les énergies qui circulent dans l'univers, si Israël n'a pas les vêtements adéquats pour utiliser ces énergies, eh bien ces énergies passent malheureusement et ne sont pas utilisées à bon escient. Et donc le Rav va continuer. Veyadua shekol uma veuma huit gabut klipa acheret shona mi chaverta. chaque nation du monde représente une écorce pour le travail vis-à-vis du travail du peuple d'Israël. Autrement dit, nous sommes choisis en tant que nation pour révéler, pour être le vecteur de la volonté divine dans ce monde. Nous avons un message à faire passer à l'univers et ce message est embrouillé par des ondes qui viennent éteindre, faire un écran pour séparer la source de l'énergie de ce message et le message lui-même. Les nations du monde jouent ce rôle, malheureusement. Elles essaient d'éteindre ou de brouiller l'émission divine qui passe par Israël. C'est clair ce que je suis en train de dire? Quand vous écoutez une émission, s'il y a des ondes qui viennent perturber l'émission, vous allez voir que l'émission s'arrête. Vous allez entendre autre chose. Eh bien, les nations du monde représentent des écorces pour essayer de brouiller l'émission divine passant par Israël. Et c'est face à tous ces écrans-là que les fêtes ont été mises en place dans le calendrier hébraïque. C'est-à-dire que chaque fête vient pour se mettre au-dessus d'un écran représenté par une nation, par un exil, et lorsqu'on dépasse cet écran, lorsqu'on le coupe, lorsqu'on l'enlève, eh bien l'émission va passer. Et donc, le Rav va donner une explication, un exemple. Mais Pessah, par exemple, à la fête de Pessah, il y a une écorce qui s'appelle Mitzrayim. C'est son nom. Et donc, il va falloir comprendre la notion de Mitzrayim, pas seulement comme étant un pays, mais comme étant une force, une structure, une intensité, un brouillage. Et c'est en surmontant ce brouillage-là qu'on pourra émettre l'émission qui devrait passer à Pessah. Vous êtes avec moi. Et donc, Venichnea, nous avons réussi à contrarier cette écorce qui s'appelle l'Égypte et nous sommes sortis d'Égypte. Ou Bechanouka, la même chose pour Hanouka, il y a une écorce correspondante à la fête. On appelle ça l'écorce de la Grèce, Yavan. Sans surmonter cette écorce, tu rates Hanouka. Asheri klipat kfira batora. Et là-bas, c'était une écorce qui vient contrarier la puissance de la Torah. Venichnea, et encore une fois, on a gagné grâce au Hashmonaïm. Ube Purim, et là on parle de Purim donc. Ou Klipat Amalek. Il y a une écorce qui s'appelle Amalek qui va essayer de contrarier l'émission de Purim qui nous arrive par l'infini. Et là encore, si on n'arrive pas à enlever cette écorce, à surmonter ce brouillage d'émissions, eh bien, on peut, chas v'chalila, rater la fête de Pourri. Vous voyez donc qu'il s'agit ici de moments très sérieux, malgré la légèreté qui habite beaucoup de monde pendant les jours de Pourri, où malheureusement, on a l'impression que c'est une version juive du carnaval. Alors, ça n'est pas le cas du tout. Pourim est là pour nous enseigner quelque chose de très puissant. Il y a une émission divine d'un très haut niveau. Et dans la Kabbalah, ce niveau s'appelle la sagesse divine, Yesod de Abba. C'est une sphère spéciale, secrète, qu'on appelle le fondement de papa, correspondante à la sagesse divine qui normalement déferle sur Israël et sur le monde entier. L'écorce d'Amalek va tenter de brouiller l'émission pour ne pas qu'on reçoive cette lumière. Cette lumière est reçue par l'homme d'Israël le jour de Pourim. Et donc avant de rentrer à Pourim, il faut battre Amalek. D'où l'importance du Shabbat qui précède Pourim de lire Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Pourquoi faire? Bien justement pour arriver à battre cet écran séparateur avant de rentrer dans la fête. Et les sages nous disent que malheureusement, ceux qui ne font pas ce travail avant Pourim, eh bien Pourim, ça reste à un niveau très 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 bas où tu te déguises, tu bois, tu manges, mais tu ne sais pas réellement ce qui se passe et ce que tu fais. Donc il y a une écorce à casser, à détruire, à effacer. Et cette écorce s'appelle Amalek. Alors on va se poser un tout petit peu sur cette écorce. Amalek, vous voyez que le mot Amalek, on peut le décomposer en deux mots différents, puisqu'il y a quatre lettres. Donc Amalek. Dans le mot Am, vous entendez déjà la nation d'Israël. Lek veut dire en hébreu effacer par la langue. Je traduis, Amalek veut dire tout simplement effacer la notion de peuple d'Israël. Comment est-ce qu'on peut effacer la notion de peuple d'Israël? C'est donc la volonté d'Amalek, tout simplement en laissant le peuple d'Israël en dehors de sa terre. On revient toujours au même degré. Et donc si le peuple d'Israël, qui seulement sur sa terre est dans la notion d'unité, eh bien en dehors de sa terre, il est dans la dispersion totale, et c'est exactement les paroles de Haman, celui qui est donc à la source de Amalek. Yeshno am echad mefuzar ou meforad. Amalek va dire une seule chose, et donc c'est une clé, puisque ça a été les paroles choisies par Esther dans la Megillah. Voici un peuple qui, au départ, est un, et dans l'unité, et dans l'entièreté, et là, il est méfouzard, il est éparpillé, méforade, il est complètement éclaté, ben agoïm, parmi les nations du monde. Aman est donc presque certain de réussir, et il n'a pas tout à fait tort. Lorsque le peuple d'Israël est en dehors de sa terre, eh bien, c'est ce qui est risqué, malheureusement, c'est ce qui arrive. Et donc, Aman va se mettre en position pour faire un travail que son arrière-arrière-grand-père n'a pas terminé, c'est-à-dire Agag. Agag, qui était le roi d'Amalek, dont le roi Shaoul, lorsqu'il est sorti en guerre, n'a pas détruit. Le roi Shaoul devait tuer le roi d'Amalek, et il ne l'a pas fait. Et Amalek s'est multiplié, a commencé à reprendre de ses forces durant les générations, et voici qu'on arrive à Pourim. Et c'est la même chose pour les générations à venir. Amalek, c'est en réalité un seul personnage au niveau de sa structure intérieure, mais qui va se répéter, se déguiser en fait, durant l'histoire, dans différents personnages de l'histoire que nous allons connaître en tant que peuple. Aujourd'hui, de la même manière que Amalek à l'époque de Pourim, c'était l'Iran, eh bien c'est exactement le même Amalek qui apparaît aujourd'hui. Le grand danger, aujourd'hui, c'est l'Iran, dont le souci n'est qu'un seul, détruire le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, c'est dit clairement comme c'était dit à l'époque. Donc ne vous attendez pas à ce que les États-Unis viennent vous aider. On est tout seul à nous battre contre tout ce degré. Et les gens autour de nous parlent, mais ne font rien. Et c'est Israël qui est encore en train de faire le nettoyage du mal de ce monde. Moralité, Pourim n'est pas seulement une commémoration de l'histoire, mais une réalité géopolitique actuelle. Donc, ce degré-là se réveille à chaque fois, chaque année, au moment de Pourim. Vehi Klipa. Et maintenant, pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette force amalécite, Quelle est cette clipa, cette écorce? Ça, c'est un langage de la Kabbalah. Écorce veut dire que ça vient cacher quelque chose, empêcher de révéler quelque chose. Eh bien, le Rashash nous dit « Harotza le'akor et hakol min hashorish ». Ça veut arracher le tout, l'entité d'Israël, le concept Israël depuis la racine, velifgom chas veshalom bishmo shel hakadosh baruch hu, ce qui équivaut à éteindre le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est sa volonté qui se diffuse sur terre. Or, si je veux que la parole divine, que sa volonté, que son nom ne se dévoile pas sur terre, je n'ai qu'à exterminer son porte-parole. Étant donné que le porte-parole de Dieu, c'est Israël, eh bien, en exterminant Israël, on arrive à un mutisme du maître du monde. Vous voyez, c'est très simple. Quand on éteint Israël, quand on sort en guerre contre Israël, c'est parce qu'on veut faire taire HaKadosh Baruch Hu. On ne veut pas que sa parole arrive sur terre. Donc on va éteindre tous ceux qui portent son nom, qui Shem Hashem Nikra Alecha, à savoir le peuple d'Israël. Venit Batla al Yede Anes, et HaKadosh Baruch Hu nous a sauvés, malgré notre état, qui n'était pas du tout un état idéal, eh bien ça a été annulé. HaKadosh Baruch Hu a annulé ce décret qui aurait pu exterminer tout à fait le peuple d'Israël. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu change l'histoire? Mais tout simplement parce qu'il ne peut pas rater sa propre création du monde. Vous comprenez que si Dieu ne se révèle pas dans le monde, autrement dit, si Israël est détruit, eh bien, toute la création a raté. Et donc, HaKadosh Baruch Hu, on ne peut pas, Chas V'Shalom, penser qu'HaKadosh Baruch Hu puisse rater le but même pour lequel le monde fut créé. Donc, moralité, à chaque fois qu'il y a un pogrom en place, eh bien, HaKadosh Baruch Hu va nous sortir, va nous sauver de ce pogrom. Malgré notre état. Car l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Dieu, et c'est elle qui est essentielle. Cette histoire ne peut pas s'arrêter. Dieu va se révéler d'une manière ou d'une autre. Et donc, si ça ne se dévoile pas d'une manière claire, eh bien, ça va se dévoiler d'une manière très habillée dans la nature. Vekatav morenu arashash zia. Et donc, le rachash nous dit que sa volonté et que sa mémoire nous protège. Be'akdamato le Purim, comme lettre d'avance sur son livre concernant Purim, Shekvar Gavra Akdusha Bapa Marishona al Yede Klipataman, que, étant donné que la lumière d'Israël a déjà vaincu la Klipa de Haman, eh bien, chaque année, ça va se repasser de la même manière, donc nous sommes rassurés, la lumière d'Israël est très puissante le jour de Pourim, donc il faut utiliser ce jour-là, ces deux jours-là, pour combattre nos ennemis à toutes les générations. Je ne parle pas seulement de l'ennemi extérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir l'Iran, ou le Hamas, ou toute la clique de toute cette racaille, mais en même temps, notre Amalek intérieur, c'est-à-dire nos doutes. Dès que vous êtes dans une situation de doute, le mal commence à circuler et à pénétrer, à glisser à l'intérieur de l'être. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le doute est une faille dans l'entièreté de la Emouna. Or, nous devons avoir une Emouna chez les mains. Ce n'est pas par hasard qu'on dit une Emouna Shlema. Pourquoi? Parce qu'il y a des degrés dans la Emouna. Ceux qui n'ont pas de Emouna Shlema, d'une certification complète, eh bien, ça laisse des failles, des fissures, à l'intérieur desquelles, par lesquelles se diffuse le doute, le refroidissement, la peur, l'angoisse et tout ce qui va avec. Moralité, tout ce qui concerne Amalek vient détruire une seule chose, c'est la notion de peuple d'Israël. Et si nous mettons en relief, en exergue, la notion de peuple d'Israël, de Klal Israël, si nous revenons au tout, à la Torah du tout, vous savez qu'aujourd'hui, la Torah du tout, c'est la Torah de la Kabbalah. La Torah qui n'utilise pas la Kabbalah est une Torah individuelle qui s'occupe de l'interdit ou de l'autorisé chez la personne individuellement parlant. Je veux parler d'une religion. Or, la Torah de la Kabbalah, c'est l'antithèse, c'est le médicament à la religion. On est tout sauf une religion. Et il faut faire très attention parce que le judaïsme de l'exil est devenu une religion. Parce qu'il n'a pas pris en compte l'élément du territoire. Et donc les rabbins de l'exil ne s'occupent que des naissances jusqu'à l'enterrement. C'est tout ce qu'ils font avec les fêtes juives. Mais les notions d'armée, les notions de terre, les notions de klal, ils ne les ont pas forcément. Ils sont en dehors de la terre. Donc du côté géographique. Mais c'est exactement ce qui manque au peuple d'Israël à l'époque de Pourim. Yeshno, les Chachamim nous disent, ne lis pas Yeshno, mais Yashnu, ou Yashen Vav. Ils se sont endormis dans leur exil. Ils gagnent de l'argent, ils sont payés par les communautés. Ils ont peur de quitter leur exil, c'est trop confortable. Et donc, malheureusement, il y a toujours un Haman et un Achashverosh. Bien entendu, on va changer les X et les Y. Hein. C'est toujours le même exercice, mais on va vous changer les chiffres. Mais les gens ne comprennent rien. Ribbono shel Olam. Et je me pose la question, comment on peut encore fêter Pourim à l'extérieur d'Israël? Ça s'appelle en français l'Ajeb. Je comprends pas. Je comprends pas. La cause même de Pourim et du pogrom qui devait venir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Megillah, c'est parce que il préférait manger et se réjouir d'un repas chez l'Oto Racha, chez Nehenu Miseroudato chez l'Oto Racha. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il préfère manger du pain, de la viande à l'étranger. Pas sur la table du roi en Eretz Israël, mais manger la nourriture des nations du monde et avoir du plaisir de ça au lieu de consommer la consommation de leur propre terre. Et pour ajouter à la fête, il dit encore autre chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, Sheishtachavu Latselem. Ça équivaut à quoi? À se prosterner à un Dieu qui est autre que le Dieu d'Israël. Parce que lorsque vous vivez à l'extérieur de votre terre, eh bien c'est comme si vous vous prosterniez à un autre Dieu. Car chaque tfila est obligé de passer par des princes de l'autre nation dans laquelle vous êtes, chez laquelle vous êtes, et ne pas passer par Akadosh Baruch Hu directement. Et ça, ça s'appelle de la Avodah Zara. Dès que j'ai un intermédiaire quelconque, eh bien, je ne sers plus Dieu directement, je sers l'intermédiaire, et c'est la plus grande des interdictions. Moralité, l'histoire de Pourim, elle est très claire. Cette clipa, une fois qu'on l'a combattue, on a la possibilité de la combattre aujourd'hui. Alors, je vous conseille un petit acte symbolique. Le jour de Pourim, vous prenez un petit bout de papier, vous écrivez à Haman et à Amalek, vous mettez du vin et vous écrasez ça à l'extérieur de votre maison. C'est le Ben Ishraï qui faisait cela et il nous dit de le faire. Et en faisant ce travail-là, tu mets du vin rouge sur le petit bout de papier, tu l'écrases avec tes pieds. Et tu cites un verset, Tenu Shechar le Oved. Donnez du vin pour détruire le souvenir d'Amalek à l'intérieur de votre être, pas seulement l'histoire de Pourim extérieur.
Autrement dit, nous sommes censés être après Pourim à un autre niveau que nous l'étions avant Pourim. Si tu sors de Pourim pour revenir à la vie que tu avais la veille de Pourim, tu n'as rien fait. Si tu sors de Pessah avec le même niveau que tu avais la veille de Pessah, eh bien les Anglais et les Américains, ils ont raison, pass over. Ça t'est passé au-dessus de la tête, c'est comme ça qu'ils appellent Pessah, pass over. Et nous, on ne veut pas de pass over, on ne veut pas que les fêtes nous passent sur la tête, on veut les vivre et on veut utiliser la puissance divine qui circule dans l'univers le jour, les jours de Pourim. Et là, on va commencer dans les Likutei Halakhot de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Cette année, je voulais vous montrer comment la Chassidut Breslev parle de Pourim. Achizat Haman, haya mipgam etzadat. Sachez que Haman a utilisé la même force que le serpent avait utilisé au départ de l'histoire humaine. Étant donné que toute l'histoire humaine a commencé par une invitation au restaurant, le serpent a invité Chava au resto. Il lui a offert Etzada Tovera à la place de Etzachaim. C'est même les sages dans la Gemara vont nous dire où est-ce qu'on va trouver Haman dans la Torah alors que Haman n'est pas dans la Torah. Comment on peut trouver le nom de quelqu'un dans la Torah alors qu'il n'est pas, il est après la Torah. La Torah s'est déjà terminée quand Pourim a eu lieu. Alors comment tu veux trouver un homme qui s'appelle Haman dans la Torah? Eh bien c'est très simple, les Chachamim vont nous dire que Haman dans la Torah est situé au même endroit où le serpent va commencer à séduire Ève, la première femme. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger parce que tu risques de mourir, tu as mangé? Eh bien, cette question-là, est-ce que de l'arbre, eh bien, tu peux la lire puisqu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, Haman, Haetz. Incroyable, les sages nous font ici un exercice de style. Ils nous disent, tu veux savoir où se trouve Haman dans la Torah? Eh bien, va voir le premier arbre. Haman, Haetz. Haman, il est toujours lié à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais l'expliquer avec mes mots. Haman, c'est donc la source de Amalek qui empêche l'homme de vivre selon les critères divins. Il va le pousser à vivre selon les critères de sa propre intelligence, ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec des mots simples, c'est toi qui vas décider des valeurs du bien et du mal. Incroyable. Nous avons une Torah où Akadosh Baruch Hu nous dit qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le non-bien. Et toi, avec ton petit cerveau cartésien serpentesque, t'as l'impression d'être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu, et donc tu vas préférer t'écouter à toi avec ton petit cerveau rationnel plutôt que d'écouter Dieu. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est tout simplement manger de l'arbre de la connaissance au lieu de manger de l'arbre de la vie. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Manger de l'arbre de la vie, c'est écouter les conseils d'Akadosh Baruch Hu. Manger de l'arbre de la connaissance, c'est faire confiance à tes propres maskanot. Je ne sais pas comment on dit en français. Okay? Tes propres... Lorsque tu es arrivé à une certaine conclusion dans ta tête. Rabotai, cette faute du premier homme, de Ève, de Chava, se répercute tout au long de l'histoire. Pourquoi vous croyez qu'à chaque fois qu'il y a une fête, nous sommes autour d'une table? Parce que les Juifs aiment manger. Oui, c'est vrai, on aime manger, c'est sympathique et tout, c'est la table. Mais c'est tout simplement parce qu'on vient corriger la première consommation de Chava. Chava, vous croyez que c'est le nom de Ève? Chava, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? le serpent, Chivia en araméen. Ça veut dire que toutes nos consommations dans ce monde, c'est pour corriger la première consommation qui nous a fait tomber dans le monde du serpent, dans le monde du rationnel, dans le monde de la logique humaine. On a quitté la vie pour commencer à réfléchir. Eh bien, Rabbi Nathan nous dit, sache que Haman vient du même degré de l'arbre. Etz Haddaat. Alors en français, ça ne veut rien dire, l'arbre. Mais en hébreu, Etz, c'est le masculin de Etza. C'est un conseil au masculin. Ça veut dire que lorsque tu manges, ils n'ont pas mangé des arbres, c'est pas des mangeurs de plantes. Il faut arrêter avec toutes ces bêtises. Adam Arishon, Chava, ont consommé une volonté qui était contre la volonté de Dieu. Une etza, un conseil qui n'était pas celui de la vie. Etz, masculin, etza, féminin. Donc, etza da'at, un conseil serpentesque qui met en premier degré ta logique. Eh bien, Haman vient de là-bas. Donc, où se cache, où se niche Haman? Eh bien, dans notre cerveau à tous. Et aujourd'hui aussi. Les décisions que tu prends dans ta vie, est-ce qu'ils viennent de ta propre pensée ou est-ce qu'ils viennent de la volonté de Dieu qui gère la vie? Et là, le Chacham nous dit que Moshe Katvu Chazal, Haman min ha-Torah minayin. D'où est-ce qu'on connaît Haman de la Torah? Shene'emar Hamin ha-Etz. Voilà. Haman, vous donnez à lire à un enfant le Sefer Torah, il n'y a pas de ponctuation, il va vous lire Haman. Même s'il est écrit là-bas Hamin. Parce qu'il ne sait pas encore lire. C'est tout au début de Bereshit. Hein? On n'a même pas commencé l'histoire humaine encore. Donc Haman se cache là-bas. Donc Haman se cache à la racine même de l'histoire humaine. Donc Haman se cache pour détruire l'histoire divine qui passe par l'histoire humaine. Donc Haman, c'est le serpent. Donc ce serpent va se déguiser à toutes les générations et il n'a aucun problème de déguisement. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous vous déguisez à Pourim. Je crois que c'est pour ressembler à un crocodile. Pourquoi tu te déguises à Pourim? Pour montrer que le mal peut se déguiser à toutes les générations dans une nouvelle forme, dans un nouveau vêtement, pour ne pas que tu le reconnaisses. Il vient t'embrouiller, il vient brouiller les missions divines qui passent à travers toi. Et donc un jour il va s'appeler le serpent, un jour il va s'appeler Haman, un jour il va s'appeler Amalek, un jour il va s'appeler Ahmedinejad, un jour il va s'appeler Hitler, un jour il va s'appeler... Vous comprenez? C'est toujours le même. Et à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre petite pensée, c'est ce petit serpent qui me dit « Mais arrête, c'est quoi ces conseils de Dieu? Tu sais bien, toi, où est le bien et le mal? Arrête d'écouter ce qu'on est en train de te dire de l'extérieur. Gère ta vie par rapport à ta petite logique. Reste en dehors d'Israël. C'est trop dangereux d'aller en Israël. T'es religieux, tes enfants mangent cachère, ta femme est un kissouille roche. Ta communauté magnifique, on a un rabbin, je te dis même pas, il est extraordinaire. Et une synagogue, je t'en parle même pas. On a des coussins sur les sièges. Reste, mon fils, reste encore 2000 ans là-bas. Allah istor. C'est ça que t'as pas compris. Et c'est ça le travail du serpent. Ve'alken ratzal itgaber bechodesh Adar. Et pourquoi il a choisi le mois de Adar pour justement commencer à manifester le mal? Parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Moshe Rabbeinu a quitté ce monde le 7 Adar, le jour où il est né. Mais il est aussi mort ce jour-là. Et donc Haman s'est dit, étant donné que Moshe Rabbeinu représente la lumière divine qui arrive dans ce monde, donc il faut annuler Moshe pour annuler Israël, il faut annuler le trait d'union entre le ciel et la terre. Il n'y a plus de messager divin. Restez en bas et tournez en rond. Vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque Moshe, on a cru qu'il était mort? Bien, on a fait le veau d'or. Pourquoi on fait un veau d'or à chaque fois que Moshe disparaît? Bien, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que c'est que le veau d'or en réalité? Vous croyez qu'ils ont fait un veau en or en train de prier un veau? C'est des hamar. En hébreu, c'est igoul, egel. À partir du moment où tu n'as plus une direction divine qui s'appelle la droiture de Dieu, la lumière de Dieu, le conseil de Dieu, eh bien tu tournes en rond dans ta vie, donc tu fais chetaïgoul. Tu fais des bulles. C'est tout ce que tu es capable de faire avec ton petit cerveau. Si on n'avait pas la Torah, comment est-ce qu'on aurait géré le bien et le mal? Si on n'avait pas une parole divine, comment est-ce qu'on aurait fait pour avoir une logique divine? C'est impossible. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas. Eh bien, tu tournes en rond dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël traverse 40 ans parce qu'il n'avait pas de Waze. Comme il est dit, Bet Yaakov me'am lo Waze. Am lo Waze, ils n'avaient plus de Waze, donc ils tournaient en rond. Ils n'avaient plus de direction. Moralité, Moshe Rabbeinu, qui représente Sfirat Ad-Da'at, la connexion avec l'infini, le lien avec l'infini, eh bien, il est mort. Et si Moshe est mort, mitat Moshe, zeprinat istalkuta da'at, bechinat shena. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as ton da'at, les lumières des mochin des gadlout, qu'on appelle les deux premières lettres du nom d'Hachem, le yud et le he? Eh bien, tu pars en cacahuète, c'est fini. Vous savez ce qu'on mange et ce qu'on boit à Purim? Le Harizal, il nous dit, achal yudke, shata yudke. C'est ce qu'on dit en hébreu, achila eshtia. Si tu décomposes le mot achila, c'est achal yud vehe. Donc tu manges les deux premières lettres du nom d'Hachem dans la Seouda de Purim. Shata, tu bois, yudke eshtia. Au lieu de lire shtia, tu dis shata yudehe. Tu bois les deux premières lettres du nom d'Hachem. Étant donné que ces deux premières lettres, c'est la chokhma et la bina, eh bien c'est de ça que tu es en train de te remplir le jour de Purim. Dans une chokhma qui dépasse ton entendement humain. Celui-là, l'entendement humain, qu'est-ce qu'il faut lui faire à Purim? Il faut lui dire va dormir. Va dormir. C'est pour ça que tu dois perdre cette conscience humaine pour ne pas retomber dans la faute du serpent. Ad de lo yada. Il faut que tu perdes le da'at de l'homme pour gagner un autre da'at, le da'at d'Akadosh Baruch Hu, da'at Elyon. Et comme on n'est pas capable de le faire, eh bien on est obligé de se parfumer. C'est pour ça que dans les magasins il est marqué vin et spiritueux. Et maintenant vous comprenez, dès que tu bois du vin, ça te monte au cerveau et tu commences à toucher des lumières. Eh bien à Purim, les lumières que tu es censé toucher, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Yesod de Abba, ou bien le degré de Chochma Eliona Resha Delait Yada, qui vont apparaître à Purim, mais ça c'est déjà une étude plus approfondie, dans la Megillah elle-même. Vous savez pourquoi on ouvre toute la Megillah? Jamais on a fait ça dans le Sefer Torah. Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'on lit la Torah, on ouvre tout le parchemin. Toute la synagogue, elle est remplie de parchemin. On n'a même plus de place pour s'asseoir. Pourquoi dans la Megillah, c'est une panique? Il nous faut 4 places pour ouvrir toute la Megillah et commencer à lire. C'est quoi ce charabia-là? Mais c'est parce que, justement, cette force est en train de se dévoiler, se répandre dans le monde. On appelle Yesod de Abba, qui est long, aroch, Donc on ouvre la Megillah pour dévoiler. Qu'est-ce que c'est Megillah? Megalé, Yudehe. C'est dévoiler les deux premières lettres du nom de Dieu. C'est exactement pareil, comme Achila et Shtia dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc toute l'histoire de Purim, c'est dévoiler les deux premières lettres du nom d'Hachem. C'est bizarre d'ailleurs, Purim va tomber quand? Eh bien, le 14 au soir. C'est la même chose, c'est le Yud et le He. Puisque le 14 au soir, c'est déjà le 15. Or, le Yud, c'est 10, et He, c'est 5, donc c'est le 15, Shushan Purim. Donc, même le jour de Purim est placé dans le mois, dans le dévoilement du Yud et du He. Dans le dévoilement du 15, du degré ultime. Ce que d'ailleurs nous allons retrouver dans la Haggadah de Pessah, où il y a 15 simanim. Kadesh, Urchatz, Karpatz, Yachatz, mais tout ça, il y en a 15, comptez-les. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. Et Pessah va se passer aussi le 15, 14 au soir. Parce que nous devons dévoiler le 15. Donc moralité, Amalek, qu'est-ce qu'il vient faire? Étant donné qu'il joue le rôle de l'écran, eh bien, il va essayer d'effacer le 15. Comment est-ce qu'on dit 15 dans les lettres hébraïques? Yud, Ehe, Ya. Et c'est pourquoi le verset de Amalek est très clair. Kiyad, Al, Kes, Ya. Car la main de Amalek veut cacher le Ya. Le Yud et le He, pour ne pas qu'on soit au niveau du divin sur terre. Pour qu'on soit sur terre déconnecté des valeurs de l'infini. Pour qu'on mange seulement de la connaissance de notre logique cartésienne et qu'on oublie les valeurs de Dieu. Mais c'est tout ça, c'est exactement ce que nous devons combattre avant même de rentrer à Pourim. Et si tu rentres à Pourim et tu as encore Amalek chez toi, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta maison, dans ta vie, mais Chas v'Shalom, qu'est-ce que tu fais à Pourim? Qu'est-ce que tu es venu faire à Pourim? Masechot, Rachanim, Shirim, Verikudim. C'est tout ce qui va te rester. Des déguisements, tu vas passer 2 mois, 3 mois à choisir des déguisements pour les enfants parce que tu ne sais même pas quel est le sens de la fête, c'est tout ce qui te reste. Rabotai, tout ça c'est pour venir combattre Amalek. She'az uzman itgabruto chas v'shalom. Et lorsque chas v'shalom on a perdu cette force de Moshe Rabbeinu, comme il s'est dit, ce fameux Haman, eh bien, on peut devenir fort dans sa tête. On va dominer Israël, on va détruire Israël, on va les acheter. Qu'est-ce que ça veut dire on va acheter Israël? Mais tout simplement, on va prendre le royaume d'Israël à la place d'Israël lui-même. Ce qu'on appelle la Sphira de la Malchoute. Au lieu qu'Israël dévoile Dieu, la royauté de Dieu sur terre, eh bien, c'est donné à une autre nation, puisqu'Israël ne fait pas son travail, puisqu'il est en exil, puisqu'il n'a rien compris au film. Eh bien, on va lui voler la royauté de Dieu, et c'est nous qui allons le dévoiler. Vous avez compris ce que ça veut dire? On appelle ça en hébreu « Olam Hatmurot », le monde des changements. Toi, tu ne joues pas ton rôle, je te vole ton identité pour moi maintenant devenir ce que toi t'aurais dû être. Rabotai, c'est exactement ce que font les Palestiniens aujourd'hui. Ils n'ont ni histoire, ni drapeau, ni rien du tout. Ils se sont tout inventés parce qu'Israël a commencé à s'oublier lui-même. Donc ils se sont inventés une histoire. Eh bien, à toutes les générations, c'est pareil. Et ce n'est pas par hasard que la Gemara nous dit « Ma'amid alehem melech shekzerotav kashot mehaman ou marziran lamutav » jusqu'à leur mettre un roi qui a les mêmes valeurs que Haman, donc valeur de réveil. C'est un réveil. Haman est un réveil. Le 7 octobre était un réveil. Si tu n'as pas compris et que tu retombes dans les mêmes systèmes et des mêmes organisations qui sont en train de faire des grèves. Tu n'as rien compris à l'histoire. Je suis là pour te donner la Géoula et tu es en train de jouer un jeu dangereux qui va coûter malheureusement la vie à tes soldats. Réveille-toi, Israël. Yeshno. Première parole de Haman. Il dorme. Yashen. Elohem shel ele. Yashnu. Ils se sont endormis. Rabotai, c'est pas anodin. La première parole de Haman, c'est il dorme. Et si tu dors, moi je vais me réveiller. Je vais faire le travail à ta place. Je vais te voler ce qui t'appartient, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et donc vous allez retrouver maintenant Achashverosh dans son palais qui va croire que c'est le Beth Amikdash. Puisque les Juifs ne sont pas en Israël pour reconstruire le deuxième temple. On est à la fin des 70 ans d'exil. Tu dois rentrer à la maison, Bernem. T'as pas compris que tu dois rentrer à la maison pour reconstruire le temple. Et l'histoire se répète. Vous attendez que ce soit le Mashiach qui vous fasse le travail pour revenir sur votre terre. Eh bien, si tu ne fais pas ça, eh bien, Achashverosh, il va commencer à dominer. Il va commencer à prendre confiance en lui-même et croire que le temple qui devait être à Jérusalem, il peut être maintenant à Suse. Là, on s'use bien. On est complètement usé. Et il va non seulement croire que le temple est le sien, mais il va imiter le trône du roi Salomon. Il va se faire fabriquer un trône. Il va utiliser les instruments et les ustensiles du Beth Amikdash. Il va s'habiller lui-même avec les vêtements du Kohen Gadol. Vous saviez ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ça veut dire tout simplement ce que je vous ai dit au début du cours. Tu as perdu ton vêtement. Tu as perdu ce qui te permet de faire apparaître Dieu. C'est ça le vêtement. Eh bien, c'est moi qui prends ces vêtements maintenant. Tu n'es plus le porteur du message divin. C'est moi maintenant. Vous comprenez comment c'est grave? Ils nous ont déshabillés. D'ailleurs, le Midrash nous dit qu'il faisait travailler les filles d'Israël nues le jour du Shabbat pour venir servir comme serveuses. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Quoi, c'était pour les voir nues? Bien plus que ça, c'était pour montrer qu'Israël n'a plus les vêtements qui lui permettent de révéler Dieu sur terre. Aïe, 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 aïe. Et donc les filles d'Israël qui représentent le royaume d'Israël, la royauté, puisque la royauté c'est une femme, c'est une malchoute. Eh bien lorsqu'elle est nue, ça veut dire que le royaume d'Israël ne peut plus être un royaume. Donc on va voler ce royaume. Et c'est nous qui allons devenir les rois. Donc Dieu va changer son épouse pour une autre épouse. Voilà l'histoire de Pourim, Rabotai. Je ne veux plus de cette femme. Elle ne fait pas ce pourquoi elle a été créée. Donc je vais la changer par une autre femme, plus belle qu'elle. Ma'achalim tmeim she'asra Torah en lahem shum tikkun. Dit le Rav ici, la nourriture interdite que la Torah a interdit ne vient pas essayer de la corriger. Même si tu prends un lapin et tu lui fais le salage et tu vas le nettoyer, tu vas le laver, tu vas lui faire la cacheroute, tu vas lui faire la shrita, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est presque de l'humour noir de Rabbi Nathan. Tu prends des éléments étrangers, tu veux en faire de la Kedusha. Ve'alken mi shenehene mehem nimshach alav chas v'shalom chinat be'it savon tochalena. Moralité, si tu essayes de jongler avec ton exil en faisant croire que tu peux vivre une vie d'Israël en dehors de ta terre, sache que tu vas vivre dans la tristesse et dans les nerfs. Etzev, atzabim, avodazara. Atzabim en hébreu veut dire avodazara, pas seulement les nerfs et la colère. Ça, c'est de la avodazara. Shehem, et qu'est-ce que c'est qu'en réalité? Pgam chet adam arishon. C'est exactement la faute du premier homme revenu à la surface de l'histoire. Donc chaque fois tu retombes dans le même examen que tu as déjà raté à la première session. On a beau te faire des sessions de rattrapage, ou allô. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le sens même du premier examen que tu as passé. Si tu ne comprends pas l'examen, comment tu veux réussir la prochaine fois, là où tu as raté la première fois? T'as pas compris l'essentiel. Jusqu'à maintenant, tu enseignes à tes enfants que l'homme, il a mangé une pomme. C'était ça sa faute. Mais tu te rends compte de la débilité que tu fais? C'est ça la Torah que tu fais passer aux générations? Qu'il y avait un fruit sur un arbre que le bon Dieu, il était très 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 nerveux, il voulait pas qu'on le mange. Et comme on a désobéi, alors il a été puni. Vous avez rendu à Kadosh Baruch Hu un petit patron de Makolet nerveux. Chas v'chalila. Si tu ne comprends pas le sens même de consommer ou de ne pas consommer, ce que ça veut dire dans le sens profond de la chose, qu'est-ce que tu veux qu'il te reste de Pourim? Et c'est de là-bas que tu continues toujours et encore la même impureté. Touma, c'est-à-dire le ken, bouché, complètement. Imperméable. Tamé. Tamé ne veut pas dire impur, mais veut dire imperméable. Tu es devenu imperméable à cette lumière. Shememune alav Haman Amalek. Et qui c'est qui est responsable de tout ça? Haman, Amalek, regardez, il les met ensemble. Hein. C'est la même chose, on s'en fiche maintenant. C'est une écorce, c'est un examen que tu es en train de passer, qui s'appelle Haman, Amalek, Hitler, ou il marche mauvais zichro, Arafat, ou qui tu veux, toute cette racaille pourrie de nos ennemis aujourd'hui. Si tu ne comprends pas que c'est le même examen que tu gères et que tu essayes de faire en sorte de régler les problèmes par un système logique, tu n'arriveras nulle part. Prends les conseils qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné dès le départ. Jamais on n'aurait eu des ennemis dans notre propre terre si on avait écouté les conseils de la vie de Dieu. Ne fais aucun accord avec eux, nous dit la Torah. Ne fais aucun processus de paix, nous dit la Torah. Arrête de tomber dans leurs pièges, ce sont des menteurs nés. C'est de la vermine. Et si tu ne leur fais pas ça, c'est toi qui subiras le danger, nous dit la Torah. Mais nous, on est plus intelligents que Dieu. La Torah, c'est du passé. La Torah, c'est archaïque. La Torah, c'est primitif. Nous, on a des systèmes. Aujourd'hui, on est intelligents. Et on voit où est-ce que cette intelligence, elle te mène. Vous comprenez le problème? C'est toujours le même. On a toujours l'impression qu'on est plus fort que lui. Que l'Éternel, au lieu d'écouter ses conseils de vie, rabotaille, moins que ça, de comprendre ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est presque raté pour Him. C'est dommage pour les bouteilles de vin que tu vas ouvrir. À Pourim, tu dois te mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois lâcher prise de ton intelligence humaine. Un jour. Une fois que tu auras mangé à Pourim de cette intelligence divine, le lendemain de Pourim, tu peux revenir à ton intelligence humaine. On ne l'a pas mise à la poubelle. On fait juste une journée par an où tu vas manger du divin. Fais-nous plaisir. Fais plaisir à l'humanité tout entière. C'est ça qu'on est venu manger à Pourim. C'est ça qu'on est venu boire à Pourim. Sinon, c'est quoi? Encore une fois, un carnaval. Mais c'est à cause de ça que le peuple juif a été accusé à l'époque de Mordechai. Et malheureusement, ça se répercute sur l'histoire. Parce qu'il est dit clairement dans la Torah, le jour où tu consommeras de ta propre intelligence, sans avoir mangé d'abord de l'intelligence divine, ce jour-là, tu mourras. Deux fois. Mot, tamut. Mort, tu mourras. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande mort que de consommer l'intelligence humaine avant d'avoir consommé le désir et la volonté divine. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas faire confiance à ton cerveau si avant tu ne l'as pas nourri de la nourriture divine du Etz HaChaim. Sinon, Chas V'Shalom, Mot Tamut, le jour même où tu manges, tu risques ta vie. Rabotai, c'est affligeant. C'est affligeant, c'est trop fort. Alors c'est très sympathique de commémorer l'histoire et de connaître l'histoire de Pourim et de connaître ce qui s'est passé. Mais si tu ne comprends pas le but, les tenants et les aboutissants de tout ce système-là, c'est quoi? Tu vas lire la Megillah, tu vas faire les mitzvot, d'accord, et alors, qu'est-ce que tu as fait? T'as pas compris le sens essentiel, primordial, central. Je crois que le temps est arrivé pour vous laisser poser des questions parce qu'on n'a même pas fait une vingtaine de lignes de tout le texte que j'avais à vous proposer, mais vous avez compris l'essence même de ce jour à Botaï. Et je vous le répète, et je suis vraiment, vraiment sérieux, ne ratez pas cette puissance qui circule dans l'univers à Pourim. Demandez-la à Kadosh Baruch Hu. Dites-lui avec ces mots-là, aussi simples que ce que je suis en train de vous dire maintenant. À Kadosh Baruch Hu, je te demande de me donner à goûter de l'arbre de la vie avant que je ne regoute de l'arbre de la connaissance. Comme ça, comme je viens de le dire, dites-le, le jour de Pourim. Et ce jour-là, on exauce vos pensées et vos désirs, puisqu'il est écrit « Kol ha-pochet yad notnim lo ». Ce jour-là, si tu demandes et tu ouvres les mains pour demander, Akadosh Baruch Hu te donne. Demandez l'arbre de la vie, demandez à manger de l'arbre de la vie. Des questions si vous en voulez.
Alors, je rallume les micros. Je rappelle que pour poser des questions, il faut allumer sa petite main jaune. Voilà, vous l'avez dans réaction. C'est un petit smiley. Vous pouvez là-bas allumer ou lever vos mains. Bechavod, Madame Benzimra, vous pouvez rallumer votre micro.
Bonjour Yoël.
Shalom uvracha.
Tu parles d'un jour par an, mais c'est à chaque moment de notre vie qu'on doit toujours être dans le Etz Hachem.
On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire chaque jour parce que les jours de Chol nous font vivre dans un monde qui est complètement naturel, humain. C'est pour ça que je vous ai dit que Pourim n'est pas un temps, c'est un jour, c'est-à-dire qu'il dépasse l'entendement humain des jours normaux. C'est un jour où même pas Shabbat, ni aucun jour de l'année a cette même puissance, dit le Hari HaKadosh. Donc c'est un jour qui dépasse, c'est seulement là-bas que tu peux te permettre de faire ça. Et le lendemain, tu dois réintégrer ta vie naturelle.
Parce qu'à chaque moment, en ce moment, tout dépasse l'entendement. Donc,
aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, toute la période qui marque la fin des temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est fini. On a court-circuité maintenant l'humain.
Voilà.
Tout à fait. Mais ça, c'est une période tout entière. Là, on parle de Pourim. Pourim représente en fait la fin des temps. Si, dans ce sens-là, tu as tout compris. Ça veut dire, si aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre d'une manière globale, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est comme si c'était le jour de Pourim.
Oui, c'est ça.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est la fin des temps, c'est pour ça qu'à Pourim, tout s'habille dans la nature, dans une Megillah, où si tu lis au premier degré, tu te demandes, il est où Akadosh Baruch Hu dans toute cette histoire? De quoi tu me parles?
D'accord.
Voilà. Question, Yonatan, je vais te laisser la parole dans une seconde. Avant, il y a une question de Sion François, comment trouver l'équilibre entre le lâcher prise et le contrôle de notre Yetzer Hara?
Eh bien, le lâcher prise, c'est un seul jour par an avec des gens que tu aimes, qui sont autour de toi. C'est le jour de Pourim. Tu dois boire juste au moment où tu perds un petit peu la capacité à réfléchir de ton propre cerveau. Après, tu vas te reposer, tu vas dormir. C'est tout. C'est pas la peine de devenir un cochon, ni à parler mal, ni à sortir des grossièretés. C'est ce qu'on te demande de faire. C'est un acte symbolique pour atteindre ce degré où tu te mets entre les bras d'Akadosh Baruch Hu.
Question de Jonathan.
Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est, enfin, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y aura moyen de faire la suite du cours bientôt ou même peut-être avant Pourim? Bon, ça c'est peut-être plus
Jonathan,
compliqué.
Il y a beaucoup de questions. Bechavod, tu me poseras la question à moi perso. Vas-y,
okay,
pose ta
d'accord.
Question.
Ok, c'est là. Comme ça.
Merci là.
D'accord, toi. J'ai l'impression que le lâcher prise est effectivement d'actualité et que c'est pas pour rien que pourri, mais c'est maintenant, si je me fais bien comprendre.
Tout à fait.
Mais j'ai l'impression qu'on est dans depuis les événements qui se sont produits il y a déjà bientôt 5 mois en fait. Dites-moi si je me trompe, ça ressemble quand même vachement à ça ressemble quand même vachement à une grossesse, si je me trompe pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a eu une période au départ pendant les 3-4 premiers mois, une espèce de période où il y avait des grosses montées, des grandes descentes. Et moi, je comparais ça à des contractions en fait.
Je vais vous révéler un secret. Mon cher Abenou est né lorsque sa maman avait seulement 6 mois de grossesse. Et donc, si on va d'après ta comparaison, eh bien, on est au moment de la naissance même de Moshe, et au niveau historique, et au niveau de l'histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la naissance de ce qu'on appelle le messianisme d'Israël, au moment même des contractions et des douleurs de l'enfantement.
Et celle de David.
On ramène au cours de Martizon qui parlait de la Brit Mila de Moshe. Et attaché que tu as beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Il y a une question à Rav de Aaron David. Comment expliquer que le Rav Lubavitch Racine ne porte pas ce message? Point d'interrogation.
Je ne peux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Je peux parler seulement à ma place, à moi. Donc, même mon Rav qui n'est plus de ce monde, le Rav Yehoshua Zuckerman, vous auriez pu lui demander, il vous aurait donné la réponse que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, les choses sont là, l'histoire est en train de nous révéler ses secrets, et le peuple d'Israël doit être sur sa terre pour révéler le royaume de Dieu. Un point, barre.
Question de Madame Garibaldi.
Oui, bonjour. Je voulais savoir comment t'expliquer, quand on me pose la question, pourquoi tu dis que le judaïsme, ce n'est pas une religion?
Le judaïsme n'est pas une religion parce qu'une religion n'a pas besoin d'un espace pour la réaliser. Une religion peut se faire n'importe où dans le monde.
lorsqu'il s'agit d'une nation, une nation a besoin d'une terre parce qu'une terre va donner le sens de peuple et le peuple peut égir un roi, ériger un roi. Donc une religion, c'est des actes religieux qui se font à droite et à gauche dans le monde. Donc c'est tout sauf le judaïsme. Elle est Aruki va Mishpati, Masher Tsiva, Dona Elohen, Uetrem, La Asot Ken, Bekere va Aretz. Toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées, c'est dans le livre de Dvarim, je vous l'ai ordonné de les faire au sein même de la terre d'Israël.
D'accord, mais pour expliquer ça aux gens, c'est pas facile, ils comprennent pas. Quand je dis ça,
ils comprennent pas. Il y a une différence entre ne pas comprendre et ne pas vouloir.
Question de Nestor. Nestor, si vous voulez allumer votre micro.
Merci.
Bonjour, Rav.
Shalom.
Shalom. Vous avez dit que le jour de Purim, demander à Hachem de nous permettre de manger de l'arbre de la vie.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y aurait un créneau ce jour-là, un créneau horaire où il faut le dire ?
Toute la journée de Purim, depuis le matin, depuis le soir même, mais l'essentiel de la Seouda, c'est le jour. Donc, dès que le jour se lève, vous pouvez demander tout au long de la journée. Et lorsque vous mangez votre repas de Purim de la Seouda, vous avez la kavana de manger de l'arbre de la vie.
Merci, Rav.
Question de Avi Lévy. Il faut allumer votre micro. Avi. Bon, en attendant, question de Laure Moaté.
Bonjour, Rav. Toda Rabba. Merci pour le cours. J'ai une question un petit peu compliquée. On comprend que Amalek veut nous exterminer. Et on comprend que nous, on doit se défendre.
Non, je n'ai pas dit ça. Amalek veut détruire la notion de peuple, pas nous exterminer en tant que juifs. Il veut manger la notion de peuple. Ça ne le dérange pas qu'il y ait des juifs en dehors d'Israël. Il ne veut pas qu'on rentre en Israël. C'est pour ça qu'il y a eu le pogrom avant Pourim, pour empêcher tous les juifs de Suse de monter en Israël.
Mais quelle est notre réaction en tant que nous par rapport à Amalek? Parce que c'est maintenant, Amalek, on peut considérer que c'est tous les Arabes qui ne veulent pas qu'on arrive, qu'on recrée le royaume d'Israël.
Exactement.
Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire?
Tout simplement, exterminer tous nos ennemis sans aucune pitié, tous ces terroristes, tout ce rassemblement le plus grand au monde de terrorisme, ce nid de terroristes, il faut tout effacer de la surface de la terre pour justement recréer le royaume d'Israël et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte.
Question de Jonathan. Si le Mashiach, c'est Moshe et David, qu'en est-il de la naissance de David par rapport à celle de Moshe?
C'est la même chose. Quand on parle de Mashiach, on parle de la valeur intrinsèque de l'homme, de ce qu'il représente. Donc ça va venir issu de David parce que c'est Yehuda en fait. Mais en réalité, c'est la même teneur que Moshe. Moshe au niveau du Da'at. C'est-à-dire que le Mashiach devra avoir les données de base de Moshe et après, il aura encore des données supplémentaires.
Question de M. Galin.
Bonjour Rav et Shavua Tov. Je voulais simplement vous souhaiter une bonne fête de Purim au niveau du Pshat et surtout au niveau du Sod.
Amen. Toda Rabba, merci. Je suis très 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 heureux et je vous remercie de ce souhait. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, aussi de vivre cette journée à la hauteur qu'elle mérite.
Amen.
La question de Alex.
Shalom Rav. On a l'impression que la fête de Purim, au final, donne une légitimation aux Juifs de Chutz Laaretz en se disant que, finalement, même si c'est marqué dans la Torah « Aster, Aster et Tanaï », que l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, elle est même en galoute. Il n'y a pas de souci, on peut être sauvé.
Tout à fait. C'était exactement ce pourquoi j'ai dit que la fête de Purim, on doit la fêter aujourd'hui avec cette compréhension. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de lire le Hallel à Purim. Pourquoi? Parce que le premier verset de Tehilim dans le Hallel, c'est « Hallelujah, Hallelu Avde Adonai ».
Louez Dieu, vous qui êtes ses serviteurs. Or, la Gemara nous dit, quand tu vis en dehors d'Israël, tu n'es pas le serviteur de Dieu, donc tu n'as pas le droit de lire le Hallel.
Oui, mais on a l'impression d'être quand même sous la protection divine. Donc, vous voyez ce que
et
je veux dire.
Il y a une protection divine concernant l'avenir du dévoilement de la royauté d'Israël. Ça, c'est quand on n'a pas d'État. Quand on a un État aujourd'hui, malheureusement, le peuple à l'extérieur d'Israël qui perd cette notion de peuple est un petit peu dans les degrés de l'abandon, j'allais dire, ce qu'on appelle un hefker en hébreu, et le visage d'Akadosh Baruch Hu est rivé sur les enfants d'Israël, sur leur terre. C'est difficile ce que je dis, mais je tiens à répéter ce que je dis parce que je pense que c'est une réalité.
Alors, deux questions. Benoliel, qu'exterminer le Hamas, d'accord, et les Gazaouis pour l'interrogation, et question de Samuel, en Israël, Natsal, pour détruire Amalek, comment détruire le Amalek en dehors d'Israël?
On ne peut pas détruire Amalek en dehors d'Israël. En Eretz Israël, il y a trois mitzvot lorsqu'on arrive. D'abord, ériger un roi. Deuxièmement, détruire Amalek. Et après, construire le troisième temple. Rambam, dans les Halakhot. Ça n'existe pas d'enlever Amalek à l'extérieur. D'ailleurs, toute l'histoire de Pourim, à la fin de l'histoire, ils sont tous restés en exil. Malheureusement, les sages dans la Gemara leur reprochent que le deuxième temple a été créé et bâti par des pauvres gens et non pas par les hommes qui devaient le faire.
Question de Rabbin Messan.
Toda Rabba, qui vaut la Rabba pour les enrichissements de vos cours. Je vous demander un éclaircissement. Vous avez dit au début de votre cours, et il me semble dans le livre de Esaïe aussi, que ce qui est dévoilé pour Him, c'est le Yesod Abba. C'est le Yesod Abba. Et il s'est dévoilé au moment où nous disons Arava dans l'Amida.
Tout à fait.
Voilà. Bon, maintenant, ce que je voudrais avoir comme précision de votre part,
oui.
Vous savez que avant, bon, tout ça se passe depuis le soir, de Pourim jusqu'à l'après-midi, et lors du repas, etc. Bon, maintenant, quelle est la position de Malhout? Bon, nous savons que Malhout n'a qu'un seul Nekouda, qui est le Keter de Malhout. Et en face, le Zérapine aussi lui manque quatre Sephirot pour être un Passouf. Pour pouvoir rentrer en relation, il faut qu'il soit des Passoufim. À quel moment ça se passe? D'accord. Et quand vous parlez de l'écorce, est-ce que l'écorce, c'est quand ils sont dos à dos? Et à quel moment nous avons le face-à-face et dont nous avons le dévoilement de Yesod Abba?
C'est une très, très, très bonne question, Rabbin Messan. Je vois que vous avez approfondi la Kabbalah concernant Purim. En réalité, la Malchut, au moment où nous sommes en exil, elle descend du Olam HaAtzilut et elle se trouve dans Olam HaBria. Et là-bas, elle est un point. Et lorsqu'elle remonte dans le Olam HaAtzilut à Purim, elle est encore un point qui doit se reconstruire en partsouf entier pour venir en zivoug. Et ce zivoug-là, il se fait au moment du repas. Puisque quand on consomme, c'est justement la consommation.
Question de Monsieur Abraham Mafouala. Votre micro est éteint.
Oui, shalom au Rav et bon retour parmi nous après un long moment d'absence. Merci beaucoup. Ma question est sur la lumière que Israël a comme mission de transmettre au monde. Est-ce que Hachem, par sa bonté, sa fidélité, a prévu que à la fin de toute chose, que cette lumière soit acceptée par toutes les nations, ou que les nations continueront à être ennemies d'Israël, si bien que la lumière est là pour les éclairer?
Alors non, Israël va réussir à faire ce travail. Le problème, c'est que ce soit de gré ou de force. Si c'est de gré, eh bien ça passera par le royaume d'Israël normal. Si c'est de force, c'est obligé de passer par des guerres qui vont finalement arriver au même résultat où Israël va être le porteur de la lumière de Dieu, mais c'est toujours par Israël que ça passera. Ou par la douleur, ou par la bonté, la miséricorde.
Merci beaucoup.
Hop, je vais laisser une dernière question parce qu'il est midi 30 déjà et le RAF doit avancer. Donc, dernière question, Madame Lévy, si vous voulez allumer votre micro. Allumez votre micro. Petit problème technique.
Oh.
Ça y est.
Ah, excusez-moi, non, c'est pas mon nom, mais c'est pas grave. Merci déjà beaucoup pour tous vos enseignements.
Là-bas.
Et j'avais une, en tant que femme, évidemment, j'avais une question concrète. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ces énergies qu'on va recevoir si on réussit à dire ce que vous avez, tout ce que vous avez dit, si on arrive à les recevoir, qu'est-ce que ça va produire?
Ça va produire tout simplement que vous allez être beaucoup plus dans la vitalité. Vous allez beaucoup plus vivre. C'est-à-dire que si j'avais un mesureur de vitalité de vie, je pourrais mesurer le jour de Pourim, vous vivez à une intensité qui est beaucoup plus divine que ce que vous vivez un jour normal. Et pour vous laisser traverser par cette intensité, il faut donc l'appeler, il faut donc l'inviter. Et donc ces paroles, c'était juste pour inviter cette lumière à vous traverser complètement, pleinement ce jour-là. Et vous allez voir les conséquences le lendemain. Je vous rappelle que le mot Pourim est lié à Pérou Urvu, c'est-à-dire fructifiez-vous. C'est comme si le jour de Pourim, on a un lien intime avec cette lumière divine.
Arabi Yoel, Toda Rabba, Shavua Tov,
Toda
Kumbura,
lekulchem, Purim Sameach
merci.
lekulam.
Toda Rabba.